18. Store Jean Dibal n'avait pas besoin du témoignage d'autrui pour être conscient de sa valeur. Il n'avait pas souvenance d'une époque où il ne se fût pas senti un être hors du commun. Ce n'était encore qu'un gamin de 10 ans lorsqu'il avait été recruté pour la seconde fondation par un agent qui avait su déceler en lui ses potentialités mentales. Il avait accompli des études remarquables et s'était plongé dans la psychohistoire comme un astronef dans un champ gravitationnel. La psychohistoire l'avait attiré et il s'était plié à cette attraction, lisant les textes de Seldon sur les principes essentiels quand d'autres à son âge essayaient tout juste de maîtriser les équations différentielles. Quand il eut 15 ans, il entra à l'Université Galactique de Trentor, ainsi l'avait-on officiellement rebaptisé, après un entretien au cours duquel, à une question sur ses projets d'avenir, il avait répondu d'un ton sans réplique « Être premier orateur avant mes 40 ans ». Il n'avait pas cherché à viser ce poste sans se donner de limitations. L'obtenir lui paraissait en effet de toute manière une certitude. C'était d'y parvenir jeune qui lui semblait le but à atteindre. Même Prim Palver avait eu 42 ans à son accession au poste suprême. Son interrogateur avait scié lorsque Jean Dibal lui avait dit ça, mais le jeune homme montrait déjà des dispositions pour le psycholangage et put interpréter cette mimique. Il sut, presque aussi certainement que si son interlocuteur le lui avait déclaré, que son dossier porterait désormais une petite note comme quoi il ne serait pas un élément docile. Eh bien, sans doute. Jean Dibal n'avait aucune intention de se montrer docile. Il avait 30 ans à présent. 31 d'ici 2 mois. Et il était déjà membre du Conseil des orateurs. Il lui restait 9 ans, au mieux, pour devenir premier orateur. Et il savait qu'il y arriverait. Cette entrevue avec le premier orateur était cruciale pour ses plans et, en s'efforçant de présenter exactement l'impression voulue, il ne s'était épargné aucun effort pour peaufiner sa maîtrise du psycholangage. Lorsque 2 orateurs de la seconde fondation communiquent entre eux, leur langage n'a rien de comparable avec ceux pratiqués dans le reste de la galaxie. Langage de gestes autant que langage parlé, c'est plus une affaire de sensibilité aux variations d'état mental que toute autre chose. Un étranger n'entendra rien ou peu quand, dans un court laps de temps, quantité d'idées auront été échangées au cours d'une conversation impossible à transcrire littéralement, sinon à un autre orateur. Le langage des orateurs avait ses qualités, vitesse et délicatesse infinie de l'expression, mais aussi le désavantage d'empêcher de fait toute dissimulation des sentiments profonds. Or, Jean Dibal connaissait son sentiment à l'égard du premier orateur. Il considérait l'homme comme intellectuellement sur le retour. Le premier orateur, dans l'esprit de Jean Dibal, ne s'attendait aucunement à une crise, n'était absolument pas préparé à en affronter une, et manquerait de la vigueur nécessaire pour la régler si jamais elle venait à se présenter. Avec toute sa gentillesse et sa bonne volonté, Chandès était de l'étoffe dont on tisse les désastres. Tout cela, Jean Dibal devait non seulement ne pas le trahir par ses mots, ses gestes ou ses expressions, mais même par ses pensées. Il ne savait comment y parvenir avec assez d'efficacité pour empêcher le premier orateur d'en percevoir ne serait-ce que des bribes. Inversement, Jean Dibal ne pouvait éviter de percevoir en partie les sentiments du premier orateur à son égard. Derrière la bienveillance et la bonhomie, aussi apparente que raisonnablement sincère, il pouvait discerner une touche de condescendance et d'amusement. Il raffermit sa propre emprise mentale pour éviter de révéler autant que faire se pouvait l'expression d'un quelconque ressentiment. Le premier orateur sourit et se carra sur son siège. Sans aller jusqu'à poser les pieds sur le bureau, il savait établir le dosage parfait d'assurance et d'amitié sans façon, juste de quoi laisser Jean Dibal dans l'expectative quant à l'effet de sa déclaration. Ce dernier n'ayant pas été invité à s'asseoir, le champ d'action et d'attitude à sa disposition et destiné à minimiser cette incertitude demeurait limité. Il était impossible que le premier orateur ne le sût pas. Chandès dit « Alors le plan Seldon n'a pas de sens ? Mais voilà une déclaration remarquable. Avez-vous consulté le premier radiant récemment, orateur Jean Dibal ? Je l'étudie fort souvent, premier orateur. C'est pour moi un plaisir tout autant qu'un devoir. Est-ce que, par hasard, vous n'en étudieriez que les passages ici et là qui vous confortent dans vos présupposés? Est-ce que vous l'observez de manière rapprochée? Un système d'équations ici, un micro-courant d'ajustement là? Fort instructif, certes, mais j'ai toujours considéré comme un excellent exercice de prendre de temps à autre du recul. Étudier le premier radiant arpent par arpent n'est pas dénué d'intérêt, mais l'observer en bloc, tel un continent, est source d'inspiration. Pour tout vous dire, orateur, je ne l'ai plus fait moi-même depuis un long moment. Aussi puis-je vous proposer de vous joindre à moi? Jean Dibal n'osa pas hésiter trop longtemps. Il fallait y passer. Alors autant le faire agréablement et sans difficulté. Ce serait un honneur et un plaisir, premier orateur. Le premier orateur abaissa un levier sur le côté de son bureau. Il y avait une manette similaire dans le bureau de chaque orateur, et celle disposée dans le bureau de Jean Dibal était en tout point identique à celle-ci. La seconde fondation se voulait une société égalitariste dans toutes ses manifestations de surface, celle sans importance. En fait, la seule prérogative officielle du premier orateur était celle explicite dans son titre. Il était toujours le premier à parler. La pièce s'obscurcit avec cette pression sur le levier, mais presque aussitôt l'obscurité laissa la place à une pénombre nacrée. Les deux murs les plus longs devinrent vaguement luminescents, puis de plus en plus blancs et brillants, jusqu'à ce qu'on y distingue enfin imprimé des équations, dans une écriture toutefois si petite qu'on avait du mal à la lire. « Si vous n'y voyez pas d'objection, » dit toutefois le premier orateur d'un ton qui se voulait manifestement sans réplique, « nous allons réduire le grossissement de façon à embrasser la plus grande vue d'un bloc. » Les lignes de petits caractères devinrent fines comme des cheveux, minces méandres noirs sur le fond nacré. Le premier orateur effleura les touches de la petite console incrustée dans le bras de son fauteuil. Nous allons le faire revenir au commencement, à l'époque où vivait Harry Seldon, et nous repartirons en avant au ralenti, en diaphragmant pour en avoir sous les yeux qu'une décennie à la fois. Cela procure une merveilleuse sensation de défilement de l'histoire, sans qu'on soit distrait par les détails. Je me demande si vous avez jamais essayé de procéder de la sorte. Pas exactement de cette manière, premier orateur. Vous devriez. C'est une sensation merveilleuse. Tenez, observez la pauvreté du réseau au début. Il n'y avait guère de place pour des alternatives dans les toutes premières décennies. Le nombre des aiguillages s'accroît toutefois de manière exponentielle avec le temps. N'eût été le fait qu'une fois prise, une branche particulière entraîne aussitôt l'extinction de tout un vaste réseau d'autres branches potentielles. L'ensemble aurait au fait de devenir impossible à appréhender. Bien entendu, dès lors qu'on traite de l'avenir, il convient de choisir avec soin les extinctions sur lesquelles on croit pouvoir tabler. Je sais, premier orateur. Il y avait dans la réponse de Jean Dibal un soupçon de sécheresse impossible à dissimuler. Le premier orateur ne releva pas. Notez les lignes sinueuses des symboles en rouge. Elles ont une structure. Selon toute apparence, elles devraient apparaître au hasard, tout comme chaque orateur gagne sa fonction en ajoutant sa pierre, ses perfectionnements au plan originel de Seldon. Il semblerait logique, après tout, qu'il n'y ait aucun moyen de prédire à quel moment un tel perfectionnement va intervenir, ou à quel moment tel orateur bien précis trouvera son intérêt, ou bien montrera la capacité à l'opérer. Et pourtant, j'ai depuis longtemps l'intuition que ce mélange du noir Seldon et du rouge orateur suit une loi bien précise, fonction avant tout et presque exclusivement du temps. Jean Dibal regarda les années passer sur l'écran, et les fils noirs et rouges tissaient leur réseau quasiment hypnotique. En soi, ce tracé ne signifiait rien, bien sûr. Ce qui comptait, c'était les symboles dont il était composé. Ça et là, un ruisseau bleu vif faisait son apparition, se gonflait, se scindait, devenait prééminent, puis se rétractait pour finir par se fondre dans la masse noire et rouge. Le premier orateur annonça « Déviation bleue ». Et aussitôt, un sentiment de dégoût partagé les remplit l'un et l'autre. on la retrouve en permanence. D'ailleurs, nous ne devrions pas tarder à entrer dans le siècle des déviations. Effectivement, on put discerner avec précision à quel moment le phénomène bouleversant qu'avait été le mulet avait momentanément occupé toute la galaxie, lorsque le premier radiant devint soudain foisonnant d'arborescence bleue. Elles apparaissaient trop vite pour être dénombrées, au point que toute la pièce finit par virer au bleu, tant les lignes s'épaississaient et, devenues de plus en plus brillantes, maculaient les murs de leur glauque pollution. Il n'y avait pas d'autre mot. Le phénomène passa par un maximum, puis décrut, s'amenuisa, subsista un long siècle encore, avant de se tarir tout à fait. Lorsqu'il eut enfin disparu, laissant le plan redevenir noir et rouge, il fut évident que Prime Palver était passé par là. En avant, toujours plus avant. « Voilà l'époque actuelle », annonça tranquillement le premier orateur. « En avant, toujours plus avant. » Et voici qu'apparut un rétrécissement, un véritable nœud serré de noir, avec seulement quelques filaments rouges. Et voilà l'instauration du Second Empire, dit le premier orateur. Il éteignit le premier radiant et la pièce retrouva son éclairage normal. Une expérience riche d'émotions, remarqua Jean Dibal. Oui, dit le premier orateur en souriant, et je vois que vous prenez bien soin de ne pas l'identifier aussi longtemps que vous pourrez éviter de le faire. Mais peu importe. Laissez-moi énoncer les points que je désire préciser. Vous aurez remarqué tout d'abord l'absence quasi totale de déviation bleue après l'époque de Prime Palver. En d'autres termes, sur les 12 dernières décennies. Vous remarquerez ensuite qu'il n'y a pas de probabilité notable de déviation supérieure à la classe 5 sur les 5 siècles à venir. Vous noterez également que nous avons déjà commencé d'appliquer les raffinements de la psychohistoire au-delà de la phase d'instauration du Second Empire. Comme vous le savez sans aucun doute, Harry Seldon, même s'il était un génie transcendant, n'était pas, ne pouvait pas, être omniscient. Nous avons fait des progrès par rapport à lui. Nous en savons plus sur la psychohistoire qu'il n'avait eu de son temps la possibilité d'en savoir. Seldon achevait ses calculs avec le Second Empire, et nous les avons poursuivis au-delà. En fait, sans vouloir être outrecuidant, je dirais que ce nouvel hyperplan, qui va très au-delà de l'établissement du Second Empire, est très largement de mon fait, et m'a d'ailleurs permis d'obtenir mon poste actuel. Si je vous dis tout ceci, c'est pour que vous m'épargniez des explications inutiles. Et avec cela, comment faites-vous pour conclure encore que le plan Seldon ne veut rien dire? Il est sans défaut. Le simple fait qu'il ait survécu au siècle des déviations, avec tout le respect que je dois au génie de Palver, est bien la meilleure preuve de son infaillibilité. Où donc est sa faiblesse, jeune homme, que vous puissiez l'accuser ainsi de ne rien valoir? Jean Dibal se leva, très raide. Vous avez raison, premier orateur. Le plan Seldon est effectivement sans défaut. Vous retirez donc votre remarque dans ce cas? Non, premier orateur. Son absence de défaut est son défaut principal. C'est cette perfection qui lui est fatale. 19. Le premier orateur considéra Jean Dibal d'un regard serein. Lui qui avait appris à maîtriser ses expressions, il s'amusait d'observer l'inexpérience de Jean Dibal en ce domaine. À chaque échange, le jeune homme faisait son possible pour dissimuler ses sentiments, mais chaque fois, il les exposait totalement. Chandès l'étudia impartialement. C'était un jeune homme mince, d'une stature assez médiocre, avec des lèvres étroites et des mains osseuses, toujours en mouvement. Il avait un regard sombre et dépourvu d'humour, un regard aux yeux de braise. Ce serait difficile, le premier orateur en était bien conscient, de lui faire abandonner ses convictions. Il remarqua.
« Vous parlez par paradoxe, orateur. »
« Cela ressemble à un paradoxe, premier orateur, à cause de tout ce que nous admettons comme allant de soi dans le plan Seldon sans jamais penser à le discuter. »
« Et que remettez-vous donc en question ?»«
Le fondement même du plan. » Nous savons tous que le plan ne marchera plus si sa nature, voire simplement son existence, est connue de trop d'individus parmi ceux dont il est censé prédire le comportement.
Je crois que cela, Harry Seldon l'avait compris.
Je dirais même qu'il en avait fait l'un des deux axiomes fondamentaux de la psychohistoire.
Il n'avait pas prévu le mulet, premier orateur, et par conséquent n'aurait pu prévoir à quel point la seconde fondation allait devenir une obsession pour les membres de la première, une fois que le mulet se serait plu à leur souligner son importance.
Harry Seldon !
Et un instant, le premier orateur frissonna, puis se tut.
L'apparence physique de Harry Seldon était connue de tous les membres de la seconde fondation. On trouvait partout des reproductions de lui en deux et trois dimensions, en photo ou en hologramme, en bas-relief ou en pied, assis ou debout. Toutes les représentaient dans les dernières années de son existence. Toutes montraient un vieillard benoît, le visage couvert des rides de sagesse que procurent les ans, symbole de la quintessence d'un génie longuement mûri. Mais le premier orateur se souvenait à présent d'une photo censée représenter Seldon jeune homme. Une photo oubliée, car l'idée même d'un Seldon jeune était presque contradictoire dans les termes. Pourtant, Chandes l'avait vue. Et il lui était soudain apparu que Storr Gendibal ressemblait étonnamment au jeune Seldon.
Ridicule. C'était le genre de superstition qui affligeait tout le monde à un moment ou à un autre, si rationnel fut-on. Il était simplement trompé par une ressemblance fugace. S'il avait eu la photo de Seldon devant lui, il aurait tout de suite constaté que cette similitude n'était qu'une illusion.
Pourtant, pourquoi cette idée stupide lui était-elle venue précisément à cet instant ?
Il se ressaisit. Ça n'avait été qu'une absence momentanée, un fugitif déraillement de la pensée, trop bref pour être remarqué par un autre qu'un orateur. Gendibal pouvait bien l'interpréter à sa guise.
« Harry Seldon, »
répéta-t-il avec fermeté pour la seconde fois,
« savait bien qu'il existait un nombre infini de possibilités qu'il ne pouvait prévoir. Et c'était pour cette raison qu'il avait instauré la seconde fondation. »
Nous n'avons pas été plus capables que lui de prévoir le mulet, mais nous avons quand même su le reconnaître une fois qu'il fut sur nous et nous avons su l'arrêter.
Nous n'avons pas su prévoir l'obsession concomitante de la première fondation à notre égard, mais nous avons su la voir lorsqu'elle s'est présentée et nous avons su l'arrêter. Quelle faille pouvez-vous bien trouver là-dedans ?
Pour une part, l'obsession de la première fondation à notre égard est loin d'avoir cessé de se manifester.
Il y avait distinctement un recul dans la déférence avec laquelle Gendibal s'était exprimé. « Il a dû noter l'hésitation dans ma voix, » estima Chandes, et l'interpréter comme une marque d'incertitude.
Il convenait de riposter. Le premier orateur attaqua vivement.
« Laissez-moi deviner. » Il y aurait donc des gens à la première fondation qui, en comparant l'histoire difficile et mouvementée des presque quatre premiers siècles avec le calme des 120 dernières années, en seraient venus fatalement à conclure que la chose n'était possible que si la seconde fondation surveillait effectivement le bon déroulement du plan. Et à cet égard, on ne peut pas dire qu'ils aient tort. Ces gens vont donc décider que la seconde fondation peut ne pas avoir été détruite après tout ?
Et bien entendu, ils auront là aussi raison. En fait, nous avons reçu des rapports indiquant qu'il y aurait à Terminus, la capitale de la première fondation, un jeune homme, membre du gouvernement, qui serait effectivement tout à fait convaincu de tout ceci. Son nom m'échappe.
Golan Trevis,
dit doucement Gendibal.
C'est même moi qui ai le premier relevé la chose dans les rapports et qui ai orienté l'affaire sur vos services.
Oh!
Réagit le premier orateur avec une politesse exagérée.
« Et
Comment en êtes-vous venu à avoir l'attention attirée sur lui ?
L'un de nos agents sur Terminus avait envoyé un compte-rendu assommant avec la liste complète des nouveaux élus au Conseil. Le rapport de routine habituel, qui est en général oublié sitôt reçu par tous les orateurs auxquels il s'adresse. Celui-ci, toutefois, attira mon attention par la nature de sa description de l'un des nouveaux conseillers, un certain Golan Trévise. D'après ce portrait, l'homme paraissait inhabituellement combatif et plein d'assurance.
Vous avez reconnu en lui une parenté d'esprit, n'est-ce pas ?
Pas du tout, dit Jean Dibal, guindé. Il semblait être un individu très excité et plutôt enclin à faire des choses stupides, description qui ne me correspond en rien. En tous les cas, j'ai alors ordonné une enquête en profondeur. Il ne me fallut pas longtemps pour juger que l'homme aurait représenté pour nous un élément de valeur si on l'avait recruté plus jeune.
Peut-être, mais vous savez bien que nous ne recrutons pas sur Terminus.
Je le sais bien. En tout cas, même sans notre entraînement, il jouit d'une intuition peu commune. Bien entendu, totalement indiscipliné. Par conséquent, je n'ai pas été particulièrement surpris qu'il en soit venu à conclure que la seconde fondation existait toujours. J'ai cru toutefois la chose assez importante pour adresser à votre bureau un rapport sur l'affaire.
Et je déduis de vos manières que vous allez m'annoncer de nouveaux développements.
Une fois convaincu de notre existence, et grâce à ses facultés d'intuition hors pair dont il a fait usage de manière typiquement indisciplinée, il s'est retrouvé au bout du compte banni de Terminus. Le premier orateur haussa les sourcils.
Vous vous taisez soudain. Vous voulez que j'interprète la signification de ce dernier point ? Sans avoir recours à mon ordinateur et en appliquant mentalement et de manière grossière les équations de Seldon, je peux deviner qu'un maire un peu rusé et capable de suspecter l'existence de la seconde fondation préférerait ne pas voir un individu aussi peu discipliné le clamer dans toute la galaxie au risque d'avertir du danger cette seconde fondation. Je suppose donc que Brano de Bronze a jugé que Terminus était plus sûr avec Trévise loin de la planète.
Elle aurait pu le faire emprisonner ou le faire tranquillement assassiner.
Les équations ne sont pas fiables lorsqu'on les applique aux individus, vous le savez bien. Elles ne traitent que des grandes masses humaines. Le comportement individuel est par conséquent imprévisible. Et il est toujours permis de supposer que le maire est un individu assez humain pour estimer que la prison, et a fortiori un assassinat, est une solution peu charitable.
Jean Dibal ne dit rien pendant un moment. C'était un silence éloquent, et il le prolongea assez longtemps pour que le premier orateur perde son assurance, mais pas assez toutefois pour induire chez lui une réaction de défense. Il avait calculé sa pause à la seconde près. Puis il dit enfin « Ce n'est pas mon interprétation. Je crois que Trévise, en ce moment même, représente le fer de lance de la plus grande menace jamais portée contre la seconde fondation dans toute son histoire. Un danger plus grand encore que le mulet.